Oui, combien ce cantique nous rappelle quelque chose de très important. Comme croire dans la théologie que Dieu est bon et le mettre en pratique, c'est, il faut la grâce de Dieu. Ce cantique dit bien quand tu perds dans le voyage. Dieu ne nous assure jamais une vie en rose, comme on dit. Par contre, Dieu nous a promis qu'il ne nous abandonne jamais. Il est fidèle. Et c'est ça qui est l'encouragement de ce cantique, comme nous a rappelé notre frère Ulysses. Je vous invite maintenant dans un autre aspect de notre adoration par la prédication. Et je vous invite à trouver dans votre Bible Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, c'est la suite donc de la série que nous faisons sur ce passage. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser du verset 17 au verset 21. Galates chapitre 2, verset 17 à 21. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Prions encore le Seigneur. Oui, Père, nous sommes devant ta parole, et combien ta parole est la vérité, la parole est la vie, et nous ne pouvons pas vivre sans elle. Comme Jésus disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Père, j'implore ce matin ta miséricorde, que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à chacun de saisir l'enseignement de ta parole, afin que nous puissions vivre avec ces principes que tu vas mettre en évidence selon ce qui est enseigné dans ta parole. Aide chacun de nous, Père, à nous concentrer et aide à ce que ta parole nous laisserons dans nos cœurs pour qu'elle puisse être utile dans notre marche, en attendant ton retour. Amen. La dernière fois, notre pasteur Michael Cole a traité le verset 15 à verset 16 et nous avons, donc la première fois, il a introduit le thème de la justification par la foi seule. Et si vous avez remarqué, le passage que nous venons de lire, c'est la suite de ce thème qui vient de mettre en route, si je peux dire ainsi, dans son développement pour les chrétiens de Galates. Mais ce matin, on va voir un autre aspect de ce même sujet. Nous restons dans le même sujet de la justification par la foi seule, mais un autre aspect qui sort de ce texte, c'est la défense de la justification par la foi. Si je peux résumer ce que notre pasteur avait porté il y a 15 jours, c'est l'explication de la justification par la foi. Et aujourd'hui, dans ces passages, c'est la défense de la justification par la foi. Et c'est pour cela que j'intitulerai ce message « La défense de la justification par la foi seule ». Et pour cela, j'aimerais juste qu'on se focalise sur deux points. Deux points, à savoir, regardez à travers ce passage que nous venons de lire, trois raisons pourquoi la justification ne peut pas s'opérer par les œuvres de la loi. Il y a trois raisons dans ce texte et je vous demande de rester, donc ce passage soit devant vos yeux, les trois raisons pourquoi la justification ne peut pas se faire par les œuvres de la loi. Et un deuxième point, pourquoi la justification est alors par la foi seule, sans rien y ajouter. Voilà les deux points que nous allons développer ce matin pour défendre le sujet de la justification par la foi. Donc nous allons regarder déjà le premier point, pourquoi la justification ne peut pas se faire sur la base des œuvres. Le verset 17 le dit, et je vous avoue, et en lisant pas mal de commentaires, c'est difficile à saisir cet argument que Paul est en train de dire. Je vous relis le verset 17. « Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, regardez le « si ». Nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché ? Loin de là. » Le premier argument, c'est donc le « si » qui est un conditionnel qui nous l'introduit. Comme je vous ai dit, c'est assez difficile, mais imaginez, hein, pour illustrer ce propos, que Paul nous disait, il dit « Nous qui croyons à la justification par la foi seul en Christ pour être sauvés, si nous péchons, en ce sens que nous aurions été amenés à négliger les prescriptions de la loi. » Et rappelez-vous juste, quelques versets auparavant, il a visé Pierre, qui était venu à Antioche, dans son attitude d'hypocrisie, hein, qui était au départ avec les païens, et quand des chrétiens de Judée viennent, il s'est éclipsé. Voyez. Et donc, l'argument que nous avons aujourd'hui continue à cela. Et donc, que veut dire Paul ici? Imaginons donc que nous qui croyons en la justification par la foi, et nous pouvons être sauvés que par la foi, et si nous sommes amenés à négliger les prescriptions de la loi, en parlant de Pierre, donc il dit, toi par exemple Pierre, tu as pas respecté la règle de la cache-route. C'est la règle des lois alimentaires. Ce qui dans la loi est interdit de manger et ce qui est permis. Et quand tu étais avec les païens, imaginons, c'est pas écrit, mais imaginons que tu n'as pas respecté cette règle. Alors, tu sembles enseigner par ton attitude que tu voulais observer ces lois, sachant bien que tu es à la foi en Christ, mais tu voulais les respecter, craignant comme si tu allais pécher en ne le pas observer. Vous voyez le raisonnement un peu bizarre ici. Donc, quel est le problème? Donc, le problème, c'est que Christ, donc, en nous enseignant la justification par la foi en lui seulement, nous amène à délaisser la pratique des œuvres de la loi et par conséquent nous fait tomber dans le péché. Voilà, c'est la logique. Alors, par cela, faut-il conclure que Christ nous donne une fausse liberté, c'est ça l'idée ici, nous trompe, nous fait errer et pécher, et donc dans ce cas-là, lui-même est l'instigateur ou un instrument du péché, comme dit le passage, un ministre du péché. Car il encouragerait alors, dans ce cas-là, à vivre dans le péché quand on délaisse la pratique des œuvres de la loi au détriment parce que nous sommes sauvés par la foi et nous sommes justifiés par la foi uniquement. Paul dit non. La réponse est décisive et claire, loin de là, impensable. Vous voyez donc ici, par une démonstration, par l'absurde, entre guillemets, le problème, ce n'est pas la justification par la foi qui rend pécheur, et donc elle est en cause, ni que Christ étant l'instigateur du péché, mais c'est la conduite hypocrite de Pierre qui avait hâte d'observer ses ordonnances, craignant de pécher en ne les ayant pas observées, malgré qu'il a la foi en Christ. Voilà ce que enseigne ce premier argument. Et donc la conclusion que Paul tire, est-ce que Christ est donc ministre du péché en nous entraînant à tomber dans le péché parce qu'on a mis de côté la pratique des œuvres de la loi? Loin de là, impensable. Donc par cette démonstration, Paul est en train de dire la justification ne peut s'opérer que par la foi uniquement et par la foi seule. Parce que ce qui était mis en jeu, ce n'est pas que Christ est l'instigateur du péché. Ce n'est pas que la justification par la foi n'est pas suffisante, mais c'est par cette attitude hypocrite, voulant toujours être justifié par la foi et ayant peur de ne pas les observer. Vous voyez? Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument maintenant, le verset 18. Dire que la justification s'obtient par les œuvres n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, selon le verset 18, Paul dit, là encore, vous voyez le conditionnel, le premier argument avec le conditionnel, ici encore le verset 18, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. » Et vous voyez, il utilise ici une métaphore de l'architecture. Il y a un premier terme, « Je rebâtis ». Ici, l'idée ici, c'est accorder une force, une autorité à quoi ? À la loi mosaïque. Et le second terme qu'il met en contraste, c'est dissoudre, détruire, déclarer privé d'autorité. Au sujet de quoi ? Au sujet de la loi de Moïse. Donc, quel est le problème ? Paul démontre par ces termes que cette tentative de reconstruire ce qui a été détruit, en d'autres termes donc, vouloir accorder à la loi une place comme moyen de justification ou de salut, induit dans un piège, celui de devenir transgresseur de la loi. Qu'est-ce que Paul montre ici ? Deux choses. Deux choses d'abord, d'une part, le péché n'est pas dans l'abrogation de la loi, mais dans sa réédition comme motif de justification. Parce que cela, c'est en contradiction complète avec la volonté de Dieu qui a mis fin à la loi en Christ, qui est venu l'accomplir. Et donc ce régime qui est devenu caduque n'a plus sa raison d'être, et le remettre à nouveau en place, c'est contre la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose. D'autre chose aussi, c'est que le pécheur est celui qui ramène la loi. Car, dit-il, le but de la loi elle-même était de s'annuler pour que nous puissions vivre la vie divine en nous. Et donc, ramener la loi implique ramener à ce qui était empêché, détruit déjà par Dieu, et ce qui nous amène à pécher, et par le péché la mort, et donc empêche la vie divine qui est en nous par l'Esprit de Dieu. Donc la justification ne peut pas s'opérer par la pratique des œuvres de la loi, qui est caduque. Il n'a plus sa raison d'être. L'époque de la loi est révolue, elle est abolie dans le plan de Dieu, car Christ, comme je l'avais dit tout à l'heure, est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, 4. La loi donc n'est plus l'instance à laquelle je dois rendre compte, car je ne suis plus soumis à ce régime. Conclusion, d'après cet argument de Paul, la justification ne peut pas s'opérer sur la base de la loi. Tout simplement parce qu'elle est rendue caduque, parce que Christ a été la fin de la loi. Regardez le troisième argument, pourquoi la justification ne peut pas s'opérer par les œuvres de la loi. Nous le voyons dans le verset 21, encore le conditionnel introduit par « si ». Verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Qu'est-ce que l'argument de Paul ici, il dit si la justification s'obtenait par l'obéissance à la loi, alors le sacrifice de Christ sur la croix aurait été inutile. Et ça, c'est quoi? C'est le pire des blasphèmes à l'œuvre expiatoire de Christ. Parce que si la loi pouvait apporter le salut, alors, par conséquent, Christ n'avait pas besoin de mourir. Ainsi, sa mort est superflue, voire inutile. Ainsi conclut Paul, j'anéantis la grâce de Dieu en proclamant le salut par la loi. Conclusion de cet argument, il n'y a qu'une seule voie qui mène à Dieu, non pas celle à travers la loi, mais celle par la foi en l'œuvre parfaite de Christ. Et merci Seigneur pour nous aujourd'hui que la base par lequel nous sommes admis devant la présence de Dieu, ce n'est pas notre propre justice, mais c'est la justice que Dieu nous offre, celle de Christ. Et ça uniquement par la foi. Donc la justification sur la base de la loi est exclue. Nous avons vu les trois points pourquoi la justification ne peut pas s'opérer sur la base des œuvres de la loi, parce que ça a induré à la conclusion que Christ sera taxé ministre du péché. Verset 17. Si c'est sur la base des œuvres de la loi, ça amène à la contradiction avec la volonté de Dieu qui a déjà aboli la loi. Et troisième argument, elle ne peut pas s'opérer sur la base des œuvres de la loi parce que ça veut dire que le sacrifice de Christ sera en vain, il a été inutile. Passons maintenant au deuxième point du message où nous allons regarder deux arguments de l'apôtre Paul à travers ce passage où la justification alors ne peut s'opérer que par la foi seule sans rien y ajouter. Premier argument, pourquoi c'est sur la base de la foi seule? Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Par la foi seule, non seulement pour la justification, mais aussi pour la vie en Christ. Galates 2:20, il dit Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Avez-vous remarqué le mot « vie » est répété, le verbe « vivre » est répété plusieurs fois dans un seul verset. Et la place de la foi est essentielle dans cette vie que nous avons en Christ. Ça veut dire « Christ vit en moi » veut dire tout simplement que Christ est le principe et la finalité de ma nouvelle vie. Ça veut dire que ma volonté égoïste est morte, et maintenant la sienne, celle de Christ en moi, gouverne ma vie. Avant, qu'est-ce qu'on faisait? Toute notre vie gravite autour de le moi, le je, n'est-ce pas? Mais une fois justifié par la foi, le centre de notre vie s'est décentré au lieu de se focaliser sur le moi et le je. Maintenant, il se focalise sur lui, le Christ, lui qui vit en moi. Et ça, c'est tout le changement qui est indiqué ici. Et cela parce que Christ vit en nous et c'est son esprit par son esprit. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire présentement, dans cette vie terrestre, dans cette tente, qui est l'enveloppe que nous avons, si je vis dans cela, maintenant la manière de vivre, c'est autre maintenant. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Vivre dans la foi au Fils de Dieu, ça veut dire je vis dans la communion permanente avec Jésus-Christ. Je mets totale confiance en Jésus-Christ pour ce qui concerne ma vie. Désormais, toute ma vie est consacrée et centrée sur lui. Donc, c'est la foi et non les œuvres ou l'obéissance à la loi qui produit la puissance divine par laquelle le croyant peut vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas la loi qui va nous permettre de vivre, mais c'est la foi qui nous permet, grâce à la puissance de l'Esprit de Dieu, agissant en nous. Mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vivre au quotidien dans la foi au Fils de Dieu? Ça implique trois choses. On peut résumer ainsi. Que nous tenions compte de ce que Dieu dit. Ça implique que nous nous appuyons sur ce qu'il dit, sa parole. Et ça veut dire que nous comptons sur lui avec une entière confiance dans tous les aspects de notre vie. Ça, c'est le changement opéré par la foi en Christ. Pourquoi la justification ne peut s'opérer que par la foi seule? Parce que on voit dans la Bible que c'est la seule méthode qui exalte ou qui magnifie la grâce de Dieu. Regardez dans le verset 21. Il dit, je ne rejette pas quoi? La grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Vous savez, Paul enseigne énormément sur la notion de la grâce de Dieu. Et c'est, on le voit aussi dans Romains chapitre 3. Je vous invite à regarder Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Et c'est le même enseignement qui exalte et qui magnifie la grâce de Dieu hein, pour ceux qui ont mis la confiance en Jésus-Christ, pour leur manière d'être justifiés devant Dieu. Romains 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, il vient de parler de la condamnation dans tous les chapitres précédents. Mais maintenant, il ne parle pas dans le temps, logiquement, chronologiquement, mais il va parler, je change maintenant d'argument. Maintenant, nous avons parlé du tableau très noir, la condamnation, et je vais vous parler maintenant, dit Paul, dans ce passage de Romains chapitre 3, à partir du verset 21, je vous parlerai de la contraire de la condamnation, la justification. Donc, il dit au verset 21, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Et je veux sauter quelques passages. Justice de Dieu, verset 22, par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Vous voyez? Verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. D'abord, précisons qu'est-ce qu'on entend par justification, parce que c'est, nous voulons défendre, à travers le passage que Paul déclare que nous avons comme base du message ce matin, mais qu'est-ce que la justification? D'abord, la justification ne fait pas un homme bon, mais il lui donne à celui ou celle qui croit une position légale sur le plan judiciaire comme quelqu'un qui est déclaré juste devant Dieu. Ça ne change pas l'intérieur, mais ça vous met dans une position légale, déclarée comme juste devant Dieu. Et alors, si nous sommes déclarés justes, nous sommes aussi justes que Christ lui-même est le juste. Donc, c'est une position de perfection aussi parfaite que celle de Jésus-Christ devant son Père. Donc revenons à notre passage ici, Romains chapitre 3, verset 21. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu pour mettre en exergue l'importance de la grâce. C'est-à-dire que la justice de Dieu est manifestée, ou en d'autres termes, rendue visible sans avoir besoin de la loi. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Parce que vous savez qu'est-ce que faisait la loi? On doit obéir à la loi, remplir ses exigences avant d'espérer attendre la bénédiction. Ça, c'est l'époque de la loi. Tandis que quand Dieu accorde sa grâce, la justification sans aucun autre mérite de notre part, sans aucune autre condition à remplir. Ça, c'est la différence. La loi dit, fais ceci et tu vivras. Fais ceci et tu vivras. Tandis que la grâce, il n'exige pas, fais ceci, fais cela. Ça, c'est l'enseignement de la grâce, sans la moindre condition à remplir par l'homme. Et là, il nous donne une clarté au verset 22 concernant la justification. Est-ce que vous voyez au verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. D'abord, la source de cette justice, c'est Dieu lui-même, non pas notre propre justice. Vous voyez? Quelle est la base de cette justice qui vient de Dieu? Sans la loi. Ça veut dire que cette justice est basée sur autre chose que la loi. C'est une justice que Dieu nous offre hein, en Jésus-Christ. Et quel est le moyen? Dans ce verset 22, par la foi. Il n'est pas dit à cause de la foi. Sinon, la foi devient une œuvre. Mais c'est le moyen par lequel on obtient la justice qui vient de Dieu, par la foi pour tous ceux qui croient. Pourquoi? Parce que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Verset 20. Ainsi, si la justification s'opère par les œuvres de la loi, ça bannit la grâce. Parce que la conclusion de ce que dit Paul dans Romains 3, verset 24, on est gratuitement justifié par sa grâce. Et ça, chers frères et sœurs, qu'est-ce que c'est? C'est exalter, magnifier la grâce de Dieu, le seul moyen pour être justifié devant Dieu. L'homme, naturellement, a besoin toujours de se justifier. Depuis plus petit jusqu'au étant adulte. Et quand il cherche à se placer devant Dieu, il va présenter ses œuvres, présenter ses mérites, présenter ses qualités. Parce qu'il pense qu'on peut gagner la faveur de Dieu et le mérite par nos propres œuvres. Loin de là. C'est une insulte à la grâce de Dieu. Pour aller vers le ciel, pour aller dans la présence de Dieu, Dieu déclare simplement, c'est uniquement par la foi et Dieu le fait par grâce. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce? La grâce réside dans ce que le don offert est absolument gratuit. Oui. Et qu'il ne peut ni être acheté, ni mérité, ni gagné. C'est un don immérité. Éphésiens 2, 8, 9, on peut le réciter par cœur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ainsi, si la justification était par les œuvres, la grâce de Dieu serait de ce fait annulée. Donc, quelle insulte. Penser ainsi insulte à la grâce de Dieu qui nous offre gratuitement de sa part le moyen pour être accepté devant sa présence. Et alors, qu'est-ce que nous enseigne Paul? Quelle est la bonne attitude face à la grâce de Dieu? Comment répondre à la grâce de Dieu? Verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Intéressant. « Je ne rejette pas, c'est-à-dire je ne rends pas vain la grâce de Dieu. » Ce qui arriverait si je disais que la justification s'obtient par la loi, je le rends vain. Car alors Christ serait mort en vain, sans cause propre et sans nécessité et sans résultat. Ça, c'est rendre la grâce de Dieu en vain. Qu'est-ce que nous enseigne ce passage pour nous aujourd'hui? Nous avons vu deux aspects pour défendre la justification. Elle ne peut pas s'opérer par les œuvres. Avec les trois raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Elle ne se fait que par la justification, par la foi seule. Quelle est l'application, comme je dirais, donc pour nous aujourd'hui? Il y a deux aspects. Si vous êtes non-croyant, vous êtes en dehors de Christ. La question, c'est sur quoi vous reposez-vous pour votre justification ou votre salut? Est-ce encore dans la loi, en vous-même, sur vos propres œuvres et vos justices propres? Ou bien mettez-vous votre confiance sur le Seigneur Jésus et lui seul? C'est une question fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés, le gouvernement est préoccupé, à toute échelle, je ne dirais pas d'un pays, mais à l'échelle même internationale. Il y a une grande préoccupation pour l'environnement, pour l'économie, pour la santé. C'est important ces sujets. Mais pour chacun individuellement, il s'agit de notre destinée éternelle. Sur quoi reposez-vous pour être justifié devant Dieu? C'est important de considérer cette question car il s'agit de la destinée éternelle de votre âme. Je dirais, ne tardez pas à prendre position et votre décision. Car Dieu use de patience envers nous. Nous ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, 4. Et si vous êtes en Christ, vous êtes croyant, j'aimerais qu'on se rappelle dans ce passage, à partir de Galates 2:20, trois vérités au sujet de nous les croyants et au sujet de ce que Christ a fait pour nous. D'abord, vous remarquez, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça nous rappelle quelque chose de si important. La substitution. Le Seigneur Jésus est mort à ma place. Le juste pour les injustes. L'innocent pour les coupables. Pierre dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Ce n'est pas son péché, il n'a jamais péché. Mais nos péchés, il a été le substitut, celui qui a pris ma place, celui qui mérite la condamnation, le jugement de Dieu, c'est moi. Mais Christ a subi le jugement à ma place. C'est l'émerveillement que doit nous susciter cette doctrine de la substitution. Le Fils de Dieu qui m'a aimé s'est livré lui-même pour moi, volontairement. Deuxième chose que nous enseigne au sujet de Christ, ce passage, je suis crucifié avec Christ. Ça nous rappelle la grande vérité de notre identifiant avec Christ dans sa mort. Vous savez, chaque fois que Paul emploie le terme crucifié, il veut dire par là que les croyants, par rapport à leur vie passée, par rapport à la philosophie et la mentalité de ce monde, déchus, ils sont morts. Ça n'a plus d'attirance pour eux. Galates 5, 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 6, 14, le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Donc vous voyez, le terme crucifié fait allusion au rapport des croyants avec les désirs de la chair et son rapport avec le système et la mentalité de ce monde déchu. Nous devrions nous considérer toujours comme un cadavre, excusez-moi l'expression, sur divers points de ce que cette chair en nous qui n'est toujours là, hein, jusqu'à ce que nous soyons enlevés ici, de vivre comme un cadavre vis-à-vis des choses auxquelles nous étions attirés avant. Un cadavre pourrait-il mentir? Non. Donc je devrais réagir ainsi aussi, par exemple face au mensonge. Un cadavre se mettra-t-il en colère? Loin de là. Et ainsi, je dois réagir aussi, parce que par ailleurs, dans Romains chapitre 6, Paul dit que nous devrions nous regarder comme morts, parce que c'est une réalité. Notre vieil homme, il a été crucifié. Il y a 2000 ans quand Christ a été crucifié sur la croix. Donc, les choses dans lesquelles nous étions attirés avant ne doivent plus ressurgir. Et ça, c'est grâce à notre identification dans notre mort avec Christ, dans sa mort. Et troisième chose qui nous rappelle aussi ce verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » C'est la vérité de la reproduction. Lorsque Jésus est ressuscité et remonté au ciel du haut de son trône, il nous communique sa propre vie, de sorte que maintenant, par l'opération du Saint-Esprit, il vit sa propre vie en nous et à travers nous. Cela doit nous encourager de nous rappeler de ces grandes vérités et de émerveiller vis-à-vis d'efficacité de l'œuvre de Christ qui s'est substituée à notre place et qui nous rappelle notre mort face au vieil homme par notre identification dans sa mort et aussi que la vie continue et cette vie n'est plus centrée sur le je, le moi, mais cette vie c'est la reproduction de la vie de Christ en nous. Je crois qu'il vit présentement sa propre vie en moi. Et alors, je crois sur parole, non pas parce que je sens ou parce que je comprends tout, tout simplement parce qu'il l'a dit. Et nous devions, chers frères et sœurs, vivre dans cette nouveauté de vie parce que Christ, qui nous a rachetés, a payé de sa vie notre liberté, a payé de sa vie pour que nous puissions vivre non plus sous l'esclavage de notre chair, mais vivre